l'abbaye du pape Saint Léon IX. Ce pape ne va vivre que 51 ans, mais va faire un travail extraordinaire. Il est né en Alsace, dans un petit village. C'était en 1092. Il s'appelait Brunon. C'était le 21 juin. Sa maman, qui était très pieuse, le fit baptiser le jour même de sa naissance. Mais quelle surprise, quand on voulut habiller l'enfant correctement, de voir que presque tout son corps était recouvert de petites croix rouges. Sa maman comprit qu'il aurait beaucoup à souffrir durant sa vie. Plus tard, quand il grandit, un fait extraordinaire arriva qui surprit un peu tout le monde, prouvant par là que le bien ou le mal que l'on fait a des répercussions aussi sur les autres. La maman avait acheté un livre de prière, ça s'appelait un psautier, et le petit enfant n'arrivait pas à prier avec ce livre. Il disait qu'il ne comprenait rien du tout à ce qui était écrit. Sa maman, intriguée, reconnut que ce livre ne lui appartenait pas, qu'elle l'avait emprunté à un couvent et ne l'avait pas rendu. Alors elle alla rapporter ce livre au couvent, prit un autre livre, et comme par miracle, l'enfant était capable de le lire, celui-là. Sa maman lui donna l'amour très grand pour la vertu de pureté. Et cette vertu de pureté se reflétait dans l'âme de Bruno, le futur Saint Léon, par sa grande qualité dans son chant. En effet, quand une âme est en paix avec Dieu, quand il y règne la pureté, tout y est en harmonie, et donc la musique en sort comme de sa source. Pour bien chanter, il faut une belle âme. Mais tous les saints doivent être éprouvés pour grandir dans la vertu et devenir forts et vaillants. Dès sa jeunesse, Saint Bruno, Saint Léon, connut l'épreuve de la maladie. Un soir, qu'il était en train de dormir, un vilain crapaud entra dans sa chambre, s'accrocha à son visage et y injecta son venin. L'enfant se réveilla en sursaut, chassa cet animal, mais la maladie était entrée dans son corps. Pendant 2 mois, il fut entre la vie et la mort. Il avait beaucoup de fièvre, souffrait beaucoup, et il avait fait le sacrifice de sa vie. « Mon Dieu, que votre volonté soit faite, non pas la mienne. Je suis pas sur terre pour faire ma volonté, mais ce que vous voulez. Si vous voulez, guérissez-moi. Sinon, donnez-moi la patience et la grâce d'une bonne mort. » Et voilà qu'après 2 mois d'épreuve, Dieu, voyant que sa patience était parfaite, Dieu lui envoya Saint Benoît, qui lui fit le signe de la croix sur le visage, le toucha avec son petit crucifix, et il fut complètement et instantanément guéri. En reconnaissance, Saint Léon entra dans l'ordre des religieux de Saint-Èvre. Il fut donc moine, et rapidement, il reçut les saints ordres. Il n'était que diacre quand il dut partir dans une expédition militaire. C'était la ville de Milan qui s'était révoltée contre l'empereur d'Allemagne. Et Saint Bruno avait été nommé non seulement aumônier, mais aussi chef de l'armée. Il devait organiser la campagne militaire qui fut un plein succès. Ensuite, Bruno revint dans son diocèse et il occupait son temps entre les études sacrées, la prière, la composition aussi de chants et d'hymnes religieux et la visite des hôpitaux. C'était son délassement. Pas de vacances ni de sport, sa détente était de visiter les malades. L'évêque du diocèse, durant la campagne d'Italie, était mort. Et le peuple réclama à l'empereur d'Allemagne de nommer Bruno nouvel évêque. Notre saint refusa par humilité et voyant que tout le monde l'y pressait, il reconnut que c'était la volonté de Dieu et, comme plus tard saint Pie X, devenu pape, il accepta cette charge comme une croix. Mais de bon cœur. C'est donc le 23 mai 1026, il a 34 ans, qu'il est nommé évêque, évêque de Toul. Il fut un aussi bon évêque qu'il avait été un bon diacre. Et là aussi, l'épreuve arriva. Il dira plus tard, « Pour le juste, la tribulation devient le principe de base de toute patience, et la patience donne naissance à la sainteté. » Ces épreuves, ces croix, ce furent les calomnies. On raconta n'importe quoi sur lui, par jalousie, pour prendre sa place. En effet, à l'époque, au 10e, 11e et un petit peu au 2e siècle, il y avait ce grand fléau, ce grand péché qui régnait en Europe, c'était le péché de la simonie. La simonie, c'était se faire s'acheter, les abbayes, les évêchés, le chapeau de cardinal, enfin tous les titres de la religion, en se faisant des amis et en payant les empereurs, les rois, etc. Et ce sera notre Bruno, notre futur saint Léon, qui va enlever, extirper ce fléau en Europe une fois pour toutes. Il en fut la victime, car ceux qui voulaient prendre sa place le calomnièrent auprès de l'empereur. Il ne dit rien, il supporta, laissa faire la providence. Ce fut même la guerre civile entre les paysans, les bourgeois et ceux qui pratiquaient la simonie. Bruno, notre héros, dut fuir plusieurs fois et on en vint même à incendier certaines maisons religieuses. On n'allait pas de main morte à l'époque. Mais finalement, grâce à sa patience et aussi son esprit de miséricorde, il n'hésitait pas à pardonner à ceux qu'il avait offensé, qu'il touchait leur cœur et le convertissait. Il était toujours malade et la maladie ne le quittera que le jour de sa mort. Toute sa vie, il va être plus ou moins, comme on dit, patraque. Il ne sera jamais en pleine forme et en pleine santé. Il dut même gouverner plusieurs mois de suite l'église dans son lit de malade. Mais on ne sauve pas les âmes qu'avec des paroles, qu'avec des prières, mais en complétant ce qui manque à la passion de Jésus sur la croix. Dieu allait montrer que la valeur de la souffrance donne des grâces par toutes sortes de miracles qu'il fera durant la vie de Saint Léon. Saint Léon fit beaucoup de miracles grâce aux saintes reliques. Vous savez, ce sont des restes d'ossements ou de cheveux ou d'habits qu'ont porté des saints et des saintes ou des martyrs que l'on porte sur soi ou que l'on vénère dans les églises par respect pour ces gens qui ont été le temple de Dieu sanctifié par une vie héroïque. Saint Bruno avait une méthode un peu spéciale de guérir les malades. Il trempait des reliques de saints dans du vin et faisait boire ce vin aux malades en les faisant invoquer tel ou tel saint. Et beaucoup de malades guérissaient. Plus tard, au XXe siècle, des missionnaires au Brésil tremperont des médailles miraculeuses dans de l'eau et feront boire cette eau entre guillemets miraculeuses aux malades ou à des grands pécheurs qui guériront et qui se convertiront. C'est la foi qui fait la quantité de grâce que l'on reçoit. La foi dans la très sainte Vierge Marie, dans l'intercession de tel ou tel saint. Un peu comme Don Bosco, Saint Léon IX aura aussi des songes. Son premier songe se passa à Worms. Il se voyait dans une grande église avec tout plein de personnages vêtus de blanc, d'un blanc éclatant. Et tout à coup apparut Saint-Pierre. Saint-Pierre avec Saint-Étienne, le diacre, qui venait couronner notre héros, le faire asseoir devant l'autel et le bénir et lui donner 5 calices d'or. Ensuite, ils mirent sur le trône un autre personnage avec 3 calices et enfin un troisième avec 1 calice. Plus tard, Saint Léon comprit que c'était le ciel qui l'avertissait de son élévation au pontificat. Il serait pape 5 années, son successeur Victor 3 ans et son autre successeur Étienne 1 an. Une autre fois, un songe lui fit vraiment peur. Il voyait venir vers lui une espèce de femme, toute vieille, toute courbée et difforme, plein de boutons, les habits tout sales. Et lui, épouvanté, essayait de fuir cette femme qui voulait l'attraper. Mais finalement, cette femme l'attrapa, baisa son pied, et tout à coup elle tomba comme morte. Mais elle se releva, en pleine forme, guérie, les habits tout neufs. En se réveillant, Saint Léon comprit que cette vieille femme était la figure de l'Église, toute défigurée à l'époque à cause de la simonie, et que Dieu allait l'envoyer pour la guérir et la relever. La situation à Rome était catastrophique. Quelques années auparavant, il y avait 3 papes. Car quand des gens n'étaient pas contents du pape élu, ils en élisaient tout simplement un autre. Et s'ils n'étaient pas contents un autre, ou bien on le supprimait. Alors ces 3 papes, Benoît IX, Sylvestre III, Grégoire VI, furent tous forcés d'abdiquer par l'empereur d'Allemagne. On en nomma un autre, mais qui ne vécut pas longtemps, et enfin un autre, Damas II, qui ne vécut que 23 jours, car on l'empoisonna. Vous voyez qu'il était vraiment temps que Dieu vienne à l'aide de son Église, toute défigurée comme l'avait vu Saint Léon dans sa vision. C'est à ce moment que Saint Léon apprit qu'à Rome, on l'avait choisi, élu, comme futur pape. Ce fut un coup terrible pour son cœur humble de savoir cela. Mais voyant la main de la Providence, il partit à pied à Rome avec une certaine anxiété, se demandant s'il serait à la hauteur et surtout, dans l'époque où on vivait, s'il pourrait relever l'Église. Et c'est durant cette marche, quand il passa les Alpes, qu'il vit des anges qui chantèrent ce beau chant et qui l'encouragèrent. Les anges chantaient « Voici ce que dit le Seigneur à Léon. Je pense des pensées de paix et non d'affliction. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Je ramènerai vos captivités de tous les lieux. » Alors Léon fut vraiment encouragé et arriva à Rome avec pleine confiance et une grande joie. C'était le 12 février 1049. Il n'allait régner que 5 ans, mais allait faire un travail extraordinaire. Une fois pape, il brilla surtout par 2 vertus, la miséricorde et la patience. La miséricorde envers les pauvres, les malheureux, les malades, en faisant toutes sortes d'aumônes jusqu'à devenir pauvre lui-même. Mais la miséricorde, c'est ce qui attire le plus la miséricorde de Dieu sur nous-mêmes. « Bienheureux les miséricordieux, » a dit Jésus, « car ils obtiendront miséricorde. » En effet, jusqu'à sa mort, jamais la Providence ne l'abandonnera. Même si ce fut au dernier moment, il aura toujours ce qu'il faut pour vivre, survivre et faire son devoir. Saint Léon, voulut commencer à demander à Dieu de l'aide, des grâces, pour être un pape digne de la situation de l'époque. Alors il fit des pèlerinages. Il se rendit au mont Gargan, tout près de San Giovanni Rotondo, là où a vécu le Padre Pio. C'était un grand lieu de pèlerinage, là où Saint Michel Archange était apparu. Il se rendit ensuite au mont Cassin pour remercier Saint Benoît de l'avoir guéri quand il était malade ou rappelé de cette plaie causée par ce vilain crapaud. Mais il y avait une autre maladie pour laquelle il priait et demandait la guérison, c'était la simonie. Beaucoup d'évêques ne vivaient que pour l'argent qu'ils gagnaient et se faisaient payer les postes qu'ils occupaient. Il convoqua un premier tribunal pour juger quelques évêques qui avaient été accusés de simonie. L'un d'eux osa nier et prêta serment qu'il n'avait jamais fait ce péché de simonie. Il tomba raide mort, comme Anani qui avait osé mentir à Saint-Pierre. Dieu l'avait frappé pour donner un exemple à tous ceux qui, comme lui, seraient tentés de simonie ou de prêter des serments contre la vérité. Dès ce moment, Saint Léon partit de Rome, à pied toujours, pour visiter toutes les églises de l'Empire. Il passa les Alpes, cela vous intéressera, au col du Grand Saint-Bernard, qui s'appelait encore à l'époque le Mont Joux. C'était le mois de juin 1049. Il se rendit ensuite à Cologne et dans différentes villes de l'Empire. On peut dire que tout son pontificat fut une lutte continuelle entre les mauvais évêques et les empereurs qui voulaient prendre la place du pape. Il voulut convoquer un concile à Reims, en France. Mais les évêques de France, sentant venir le vent et la punition, dirent toutes sortes de calomnies à l'empereur pour empêcher ce concile. L'empereur d'Allemagne eut même l'audace de faire enlever le chef du monastère de Saint-Rémy à Reims pour empêcher le concile. Mais le pape n'en tint aucun compte, il fit le concile à Reims et condamna tous les évêques convaincus de simonie dans l'Empire et en Gaule. Les évêques de France n'étaient pas commodes. Ils étaient jaloux de leur autorité et assez orgueilleux. Les deux archevêques de France, l'archevêque de Reims et l'archevêque de Trèves, voulaient tous les deux être le premier. Comment faire? Le pape fit alors quelque chose qui les mit en paix. Au lieu de mettre les sièges face à l'autel, il les mit en cercle autour de l'autel, si bien que tout le monde était le premier, et la querelle s'apaisa. L'archevêque de Besançon prit la parole pour défendre le droit des évêques convaincus de simonie. Aussitôt qu'il devint muet, il fut châtié par Dieu et ne put plus parler jusqu'à la fin du concile. Il y eut aussi deux autres châtiments terribles qui firent réfléchir tout le monde. Les deux plus grands ennemis du pape, l'évêque de Laon et le seigneur de Braine, qui avaient voulu demander à l'empereur d'empêcher ce concile, tous les deux moururent d'une mort ignominieuse dans l'année même. L'évêque de Laon fut excommunié et abandonné de tout le monde, et mourut de faim. Et le deuxième, qui avait dit qu'il préférait abattre la tête du pape, fut lui-même tué d'un coup de sabre dans le crâne. De Dieu, on ne se moque pas. Par contre, l'évêque de Langres, un simoniaque, donc qui était coupable, reconnut ses fautes, partit à pieds nus jusqu'au Latran, jusqu'à Rome, pour demander l'absolution de ses péchés. Le pape s'empressa à lui pardonner. Il voulut lui redonner son siège d'évêque, mais il refusa. Il partit chez les moines, se fit religieux et mourut dans une sainte pénitence. Ce fut aussi à cette époque qu'on chantait pour la première fois le Veni Creator au début des conciles. Le pape se rendit ensuite de Reims à Verda, et c'est là qu'il décida que les évêques et le pape, quand ils officieraient, diraient la messe en sandales. Il fit ensuite un autre concile à Mayence, là encore pour condamner les évêques convaincus de simonie, et c'est là que Saint Léon IX, c'est intéressant pour notre époque, interdit une fois pour toutes le mariage des prêtres. Un évêque, l'évêque de Spire, Sibichon, voulut dire que le pape n'avait pas le droit d'interdire le mariage des prêtres. Et à sa messe, il communia pour demander à Dieu que le pape change d'avis. Aussitôt, sa bouche fut fermée, il ne put plus l'ouvrir jusqu'à sa mort. Et il mourut de faim, ne pouvant plus ouvrir la bouche, depuis qu'il avait proféré cette horrible parole que les prêtres pouvaient se marier. À bon entendeur, salut, comme on dit. Ensuite, le pape se rendit à Rome et au Latran, il tint un concile où il condamna le premier qui avait osé dire que Jésus n'était pas présent dans l'Eucharistie, Béranger. Là aussi, un évêque osa s'interposer et contredire le pape. Il s'appelait Nison. Il était évêque de Freisingen. Il avait même osé dire « Je veux que ma gorge soit tranchée par le glaive si je ne contredis pas le pape. » À l'instant même, il eut des douleurs intolérables au cou, si bien qu'il en mourut après 3 jours et impénitent. De Dieu, on ne se moque pas. Qui mange du curé en meurt, mais qui mange du pape. Une autre fois, le pape fit venir vers lui un autre évêque, dont on n'a pas le nom, et cet évêque fit semblant de demander pardon de tous ses désordres au pape. Saint Léon lui dit, alors que l'évêque était à genoux à ses pieds, que Dieu lui donne absolution de tous ses péchés selon sa dévotion, c'est-à-dire selon s'il est bien disposé. L'évêque se releva avec un sourire moqueur, mais il en tomba raide mort. Le pape continua ses voyages pour déposer les évêques qui n'en étaient pas dignes. Il partit donc pour la 3e fois. Et c'était la guerre entre l'empereur d'Allemagne et le roi de Hongrie. Tous les deux avaient des torts. C'est souvent comme ça dans les guerres ou les disputes ou les divorces. Il y a souvent des torts des deux côtés. Et le pape fit faire des concessions à tous les deux pour pouvoir obtenir la paix. Enfin, il rentra chez lui, en Italie, à Mantoue, et là, il voulut y faire un concile, mais là encore, les évêques sentaient venir le vent et la condamnation. Ils provoquèrent une révolte parmi le peuple, si bien que le peuple s'assembla devant l'église avec des cailloux et des bâtons, et les lancèrent contre la délégation du pape. Le pape ne fut pas blessé, mais beaucoup de ceux qui l'accompagnaient. On a le sang chaud par là-bas. Le lendemain, les cardinaux et le pape organisèrent un tribunal pour juger les fauteurs de ces troubles et de cette bagarre. Le pape prit la parole et dit, sachez que le pape est prêt à pardonner sans pénitence tous ceux qui demanderont sincèrement pardon. Les révoltés regrettèrent leur violence, demandèrent sincèrement pardon. Voyez encore une fois combien la miséricorde obtient des prodiges. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait le bonheur sur terre. Il veut le bonheur dans l'autre vie. Ainsi, une croix déposée en annonçait une autre. Ce furent les Sarrasins. Les Sarrasins qui débarquèrent en Sicile et qui menaçaient l'Italie par des razzias continuelles et aussi la ville de Rome. Que faire alors? Le pape Saint-Léon lui levait une armée pour pouvoir aller les repousser vers l'Orient. Cette armée réussit à repousser les Sarrasins loin d'Italie, mais ils restaient farouchement en Sicile. C'est à cette époque que 40 Normands revenaient de pèlerinage de Terre Sainte. Ils arrivèrent en Sicile au moment où ces faits avaient lieu, et alors ils déposèrent leur habit de pèlerin, prirent l'épée, s'armèrent et partirent, eux seuls, les 40, contre les Sarrasins qui assiégeaient les villes de la Sicile. Contrairement à toute attente, ils furent vainqueurs. Le pape était dans l'admiration. Alors, les Siciliens leur donnèrent beaucoup d'argent et leur proposèrent de faire venir s'installer en Sicile leur famille de Normandie, espérant par là avoir des protecteurs stables qui les protégeraient contre les Sarrasins. Mais le démon n'abandonna pas la partie. Il cherche toujours à diviser, à semer la guerre, la difficulté. Au début, cela se passa bien. Les Normands arrivèrent, ils s'installèrent, ils repoussèrent encore plus loin les Sarrasins, construirent des petits châteaux, mais ils gardèrent le goût du sang, le goût de la guerre. Et alors ils se tournèrent contre les chrétiens. Ils pillèrent les églises, les couvents, débarquèrent en Italie, remontèrent en direction de Rome. C'était vraiment un danger qui menaçait toute l'Italie et la papauté. Si bien qu'une nouvelle guerre s'entama entre les Normands et le pape. C'était en 1053 et la grande bataille eut lieu à Draganora. Les soldats du pape, les Italiens, étaient beaucoup plus nombreux que les Normands. Mais les Normands étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus courageux. Et ils mirent en fuite les Italiens. Ce sont les chevaliers allemands, alliés du pape, qui résistèrent le plus. Ils bataillèrent jusqu'au dernier. Pas un seul n'en sortit vivant. À ce moment-là, les Normands se précipitèrent sur la ville où était enfermé le pape, Civitella. Ils mirent le feu aux maisons des alentours, espérant faire sortir les habitants de la ville par le feu et la fumée. Mais à ce moment-là, Dieu fit tourner le vent qui se tourna vers les Normands et dut arrêter l'attaque. Le lendemain, le pape leur proposa la paix en disant « Mes enfants, pensez au salut de votre âme. Je suis prêt à vous pardonner sans pénitence les fautes que vous avez commises. Si vous cherchez quelqu'un à tuer, prenez-moi, je suis prêt, je ne crains personne. Ma vie, je vous la donne volontiers, si c'est pour le salut de mon troupeau. » Les Normands furent dans l'admiration d'un tel courage et d'une telle valeur. Ils déposèrent les armes, allèrent à la rencontre du pape, lui demandèrent pardon sincèrement. Saint Léon les embrassa, les réconcilia avec Dieu, et ensuite il se rendit en pleurant sur le champ de bataille, car des milliers d'hommes étaient morts. Mais là, sur le champ de bataille, il eut une grande consolation. Tous les soldats du pape gisaient intacts sur le champ de bataille, tandis que tous les soldats normands étaient déjà à moitié mangés par les animaux, les renards, les oiseaux, etc. Il vit là un signe que tous ses soldats étaient montés au ciel. Depuis ce jour-là, Saint Léon disait la messe tous les jours pour ses soldats morts sur le champ de bataille. Un jour, il eut une vision qui le consola beaucoup. Tous ses soldats lui apparurent, vêtus de blanc, lumineux, lui disant qu'ils étaient au ciel, car ils étaient morts pour l'Église et qu'ils étaient martyrs. Le pape fit bâtir une basilique sur ce champ de bataille et sur les tombeaux des martyrs, où il s'opéra beaucoup de miracles. Mais le travail de Saint Léon touchait à sa fin. Il avait accompli sa mission. La simonie avait été arrachée une fois pour toutes de l'Église en Europe. Il avait mis la paix entre les princes chrétiens. Il avait chassé les musulmans. Dieu pouvait le reprendre et lui donner le repos bien mérité. C'est ainsi que le 12 février, depuis ce jour-là, il ne put plus manger une seule miette. Il ne pouvait plus que boire que de l'eau. Il eut pourtant la force, en rencontrant un jour un lépreux à moitié mort de faim au bord du chemin, il le prit sur lui, l'emmena dans sa chambre. Mais le lendemain, quand il voulut lui donner à manger, lui donner des soins, ce lépreux avait disparu, et on pense que c'était ou un ange ou Jésus qui voulait une dernière fois encore éprouver sa charité alors qu'il était bien fatigué. En cours de route, car il rentrait à Rome, on lui demanda de bénir une église à Spire. Mais très fatigué, il dit simplement qu'il la bénirait de loin. Il fit un grand signe de croix en demandant à Dieu sa bénédiction. On disait que ça n'était pas suffisant, qu'il fallait au moins venir sur place, faire une petite prière. Allez voir, vous verrez que cette bénédiction a suffi. Et quand ils allèrent voir dans cette église, en ouvrant la porte, ils virent encore de la fumée d'encens et les marques des signes de croix dans la cendre et sur l'autel, faits par une main invisible. C'est ainsi qu'il mourut après 51 ans, 5 ans de pontificat seulement, après avoir fait un travail extraordinaire. Saint Léon, vous qui avez vécu si peu de temps sur la terre, mais qui avez fait un si grand travail, obtenez-nous de Dieu votre grand courage et aussi votre esprit miséricordieux qui nous rend toujours prêts à pardonner, à tendre la main, à faire le premier pas pour pouvoir aider même ceux qui sont méchants envers nous. Donnez-nous une plus grande foi envers la Providence et un plus grand respect pour le pape, les évêques, les prêtres qui tiennent la place de Jésus sur la terre. Sainte-Cécile, fêtée le 22 novembre. Nous sommes en 160 à Rome. À cette époque, la persécution contre les chrétiens fait rage et tout chrétien s'attend à mourir non pas dans son lit, mais martyr. On ne vient pas très vieux, car dès qu'on est attrapé comme chrétien, on est mis en prison, torturé jusqu'à la mort, si l'on refuse d'adorer les idoles, ce que la plupart des chrétiens refusent de faire. Le pape Urbain Ier doit vivre caché dans une grotte, au-dessous d'un temple consacré à des idoles païennes. C'est là que la nuit, en cachette, les chrétiens, même les enfants, viennent se ressourcer et apprendre le catéchisme. À la porte de cette grotte, se tiennent continuellement des pauvres, à la fois pour servir de garde et avertir en cas de danger, et aussi pour signaler aux chrétiens qui sont de passage où se trouve le pape. Car là où est les pauvres, là est l'Église. Parmi ces pauvres, il y a une petite fille avec ses parents. C'est Cécile. Elle rayonne de charité, elle ne fait que parler de Jésus, que prier Jésus et que rendre service pour l'amour de Jésus. Elle sait très bien qu'elle aussi devra mourir martyre. Il n'y a pas d'échappatoire, mais elle se réjouit de mourir pour Jésus. Elle se prépare tous les jours et pour être plus sûre encore d'être toute à Dieu, elle consacre sa virginité et se fait religieuse à l'âge de 15 ans. Plus tard, pour une raison qu'on ne connaît pas très bien, poussée par ses parents au mariage, elle accepte d'épouser un païen, Valérien. Mais après le mariage, elle lui confie un secret. Ami très cher, j'ai un secret qu'il faut que je te confie. Mais peux-tu me promettre de ne le dire à personne? Le jeune homme promit. Écoute, un ange de Dieu veille sur moi, car je suis consacré à Dieu, je lui appartiens. Si tu respectes ma virginité, alors cet ange t'aimera comme il m'aime, et sa grâce s'étendra aussi sur toi. Valérien, apeuré, troublé, répondit. Cécile, pour que je puisse croire à ta parole, fais-moi voir cet ange. Quand je l'aurai vu, je croirai qu'il est l'ange de Dieu, et alors je t'obéirai. Mais si c'est un autre homme que tu aimes, sache que je te tuerai. Cécile reprit. Non, je n'aime personne d'autre. Si tu acceptes d'être purifié dans la fontaine du baptême, si tu veux croire au Dieu unique, à Jésus, le Dieu vivant et véritable qui règne dans les cieux, alors tu pourras voir l'ange qui veille sur moi. Valérien répondit, et qui me purifiera afin que je puisse voir l'ange? Cécile dit, il y a un vieillard qui baptise, qui purifie les âmes, afin qu'elles méritent de voir l'ange de Dieu. Tu passeras par la voie Appienne, assez loin, et tu trouveras des pauvres qui demandent l'aumône aux passants, côté d'une grotte. J'ai toujours eu soin de ces pauvres, et mon secret l'aurait connu. Tu les salueras de ma part, et tu leur diras, « C'est Cécile qui m'envoie vers le saint vieillard Urbain. J'ai un message secret à lui transmettre. » Arrivé devant le vieillard, tu lui rendras mes paroles. Il te purifiera après t'avoir fait le catéchisme et te revêtira d'un habit tout blanc. Alors quand tu reviendras, tu verras le Saint-Ange qui veille sur moi, car il sera aussi ton ami. Et tout ce que tu lui auras demandé, il te le donnera. Valérien aimait Cécile. Il aurait tout fait pour elle. Il lui obéit et courut chez le vieillard Et quand Urbain l'eut écouté, il s'écria : Seigneur Jésus-Christ, semeur des pures résolutions, recevez le fruit de cette semence que vous avez déposée dans le cœur de Cécile. Seigneur Jésus-Christ, bon pasteur, Cécile, votre brebis qui a prêché, vous a bien servi. Cet époux que l'avait reçu, semblable à un lion impétueux, en un instant, elle en a fait un agneau très doux, un chrétien. Déjà, il a la foi, puisqu'il est venu. Seigneur, ouvrez la porte de son cœur à vos paroles, qu'il reconnaisse que vous êtes son créateur et qu'il renonce aux idoles qui sont des démons. Après ces paroles inspirées par le Saint-Esprit, voilà que Saint Paul apparut à Valéria. Il était vêtu d'un vêtement éclatant. Il lui tendit un livre couvert d'écritures en lettres d'or. Et lui dit : Valéria, lis, crois, mérite de contempler l'ange dont la Vierge Cécile t'a promis la vue. Alors Valérien lut ces paroles : Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de toutes choses, qui est au-dessus de tout et en nous tous, Jésus-Christ. Saint Paul lui dit : Crois-tu qu'il en est ainsi ? Valérien dit : Rien de plus vrai sous le ciel. Et il fut baptisé. Valéria se rendit alors chez Cécile, et à peine eut-il ouvert la porte, qu'il vit l'ange de Sainte Cécile, l'ange gardien, qui se tenait à côté d'elle, le visage enflammé, les yeux de feu, les ailes étincelantes, et qui tenait deux couronnes de roses et de lys, une pour Cécile, une pour lui. Il déposa une couronne sous la tête de chacun des époux, puis dit à Valéria : Puisque tu as accepté de garder la pureté, de même que Cécile, reçois cette couronne et ces lys, symbole de la pureté du cœur. Reçois ces roses, symbole du martyr que vous allez bientôt recevoir, symbole du trophée de gloire que vous aurez dans le ciel. Et puisque tu as accepté d'acquiescer à la prière de Cécile, demande-moi tout ce que tu voudras, je te l'accorderai. » Alors Valérien fit cette belle prière. « Maintenant que j'ai reçu la foi et la lumière, et que je connais le vrai Dieu, je serais vraiment cruel si je n'apportais pas le même bonheur à ceux que j'aime. De famille, je n'en ai plus, sauf un frère unique, ange de Dieu. Je vous demande la conversion de mon frère, pour que nous soyons réunis au ciel, comme nous l'avons été sur la terre. » L'ange gardien de Cécile s'arrangea pour que le lendemain, il croise le frère de Valérien, Tiburce. C'est ainsi que font les anges gardiens. Quand nous avons besoin de quelqu'un ou de quelque chose, demandons-leur, et ils nous feront tomber sur cette chose ou croiser cette personne. Alors Tiburce dit : Mais ça sent la rose ici, et les lys. Quelqu'un est-il passé ici ? Ô Valérien, nous portons des couronnes que tu ne peux pas voir pour le moment. Mais si tu veux croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu pourras les voir. » Alors Valérien commença à instruire son frère de la religion catholique. Et à mesure qu'il parlait, l'ange de Dieu l'éclairait. Et pour finir, Tiburce comprit la honte du prix des idoles de pierre qui ne représentent rien du tout, qui sont des inventions des hommes et souvent des divinations de choses honteuses. Mais quand Cécile lui dit qu'il fallait qu'il soit baptisé auprès d'Urbain, Tiburce eut peur. Urbain, il a déjà été condamné deux fois par l'empereur. S'il est pris, il sera brûlé vif. Et si nous sommes chrétiens, nous risquons le même sort. » Cécile répondit : « N'aie pas peur d'être brûlé un instant sur la terre pour ne pas être brûlé l'éternité en enfer. Qu'est-ce que cette courte vie par rapport à la vie éternelle? Comme Tiburce hésitait encore, Cécile lui raconta en résumé le catéchisme et en détail la vie et la passion de Jésus. Quand elle eut fini de parler de la passion de Jésus, Tiburce pleurait. « Ça suffit. Dites-moi où on trouve celui qui purifie et qui fait croire à un Dieu si bon. N'ajoutez rien. Je suis convaincu. Si Dieu nous a tant aimés, il n'est peut-être que le vrai Dieu. » Alors il faut conduire à Urbain, qui le baptisa, et 7 jours après le confirma. Mais rapidement, les 2 frères furent dénoncés à l'empereur, qui, après les avoir torturés sans résultat, leur coupa la tête. L'empereur se réjouissait déjà de pouvoir prendre l'argent et les biens des 2 frères, mais il ne trouva rien. Tout avait déjà été donné aux pauvres. Alors il commanda à ses soldats d'aller arrêter Cécile, de l'interroger chez elle, et non pas en public, car il avait trop peur qu'en public, elle convertisse les autres. En les voyant arriver, Cécile leur dit, « Vous êtes mes concitoyens. Moi je sers un Dieu bon. Vous servez un empereur injuste qui fait mourir. Moi un Dieu qui fait vivre. » Les soldats étaient tout honteux de voir une femme qui disait la vérité et qui n'avait pas peur de mourir. Je vais échanger de la boue contre de l'or, quelques minutes contre l'éternité, les souffrances contre le bonheur. Les soldats dirent à Cécile, arrêtez, nous croyons nous aussi. Si la servante est si bonne, le Dieu de cette servante, combien doit-il être bon? Nous croyons aussi. Alors allez avertir votre empereur et dites-lui qu'il me laisse quelques jours avant mon martyre. Cécile fit avertir Urbain, le pape, qui vint pour baptiser 400 personnes que Cécile avait réussi à convertir dans ses soldats. Quelques jours plus tard, enfin, l'empereur la fit comparaître. Quel est votre nom? On m'appelle Cécile, mais mon nom principal est Chrétienne. Elle répondit avec beaucoup d'assurance, n'ayant pas peur des souffrances et des tortures que dont l'empereur le menaçait. Nous avons des lois. Vous devez sacrifier aux idoles. Non, il n'y a pas de loi qui tienne quand elle est contre la loi de Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous ne pouvons pas désobéir à Dieu pour obéir aux créatures de Dieu. L'empereur n'arrivait à rien du tout. Pour finir, il se mit en colère et lui dit, « Sais-tu que j'ai pouvoir de vie et de mort ?» Cécile sourit en disant, « De vie et de mort ? Tu as le pouvoir de mort, oui, mais tu n'as pas le pouvoir de donner la vie à quelqu'un qui est mort. Disons que tu es un ministre de mort, oui, tandis que mon Dieu lui donne la vie éternelle. Sacrifie ou tu meurs. Non, je ne sacrifie pas devant des pierres, devant des bouts de bois qui ne représentent personne. Je sacrifie ma vie à Dieu qui est esprit. Je l'adore en esprit et je lui offre ma vie. Lui est venu sur la terre, il a vécu parmi nous. Il est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Des millions d'hommes l'ont vu, des idoles, personne ne les a jamais vues. L'empereur ne voulait pas être humilié en public. Il décida que Cécile soit tuée chez elle, en cachette. On l'enferma pour l'étouffer par les vapeurs dans sa salle de bain et on y chauffa de l'eau pour qu'elle fût étouffée. Mais Dieu et l'ange protégeaient Cécile. Les vapeurs brûlantes ne lui firent aucun mal. Et après plusieurs heures où les bourreaux ne faisaient qu'attiser le feu pour augmenter la chaleur de la vapeur, il n'y arrivait aucun mal. Alors le bourreau arriva avec l'épée, et sa main tremblait tellement devant la majesté de cette femme qu'il eut s'y prendre 3 fois pour lui couper la tête, et il ne fit que la couper à moitié. Il la laissa à moitié vivante, couverte de sang, et il s'enfuit en courant. Par miracle, elle restera encore 3 jours vivante, 3 jours où, étendue par terre, perdant son sang goutte à goutte, les chrétiens en procession venaient lui parler, récupérer sur des linges son sang. Elle donnait ses dernières recommandations, les encourageait, leur souriait quand elle ne pouvait plus parler. Après 3 jours enfin, le pape Urbain arriva, c'est lui qu'elle attendait. « Père, dit-elle, j'ai demandé au Seigneur ce délai de 3 jours pour remettre aux mains de votre béatitude les pauvres que je nourrissais, et je vous lègue aussi cette maison, afin que, consacrée par vous, elle devienne une église. » Après ces paroles, son œil, avant de mourir, vit les cieux ouverts. Elle était couchée sur le côté droit, les genoux réunis. Ses bras s'affaissèrent l'un sur l'autre. Elle tourna contre terre sa tête sillonnée par le glaive, et son âme s'envola vers Jésus. C'est dans cette même position qu'elle sera enterrée. Et sa maison, comme elle avait demandé, sera consacrée en son honneur par le pape, l'église Sainte-Cécile. Sainte-Cécile est la patronne des musiciens, parce que durant ces 3 jours où elle agonisait, elle arrivait même à chanter, toute joyeuse d'offrir sa vie goutte à goutte à celui qui avait donné sa vie goutte à goutte durant 3 ans pour nous. Sainte-Cécile, faites-nous la grâce de ne pas avoir peur ni de la souffrance, ni de la mort, ni des moqueries, mais que nous ayons qu'un amour, Jésus, et que nous le faisions partager aux autres.
Sainte Élisabeth de Hongrie, fêtée le 19 novembre. C'est une sainte qui a vécu presque tous les états d'une façon héroïque. Enfant, fiancée, épouse, reine, veuve et religieuse, et morte à 24 ans après avoir montré l'exemple dans tous ses états. Elle fut regardée comme un don du ciel, car à sa naissance, toutes les guerres et les disputes même qu'il y avait dans les familles en Hongrie cessèrent. Elle avait pour meilleur ami les pauvres. Dès l'âge de 3 ans, elle s'occupait d'eux. Dans toute sa maisonnée et aux environs, grâce à sa présence et à son exemple, tous les excès et les blasphèmes devenaient de moins en moins fréquents. L'exemple est très contagieux. À cette époque, les enfants des princes et des rois étaient fiancés très tôt, pour faire en sorte que les royaumes puissent s'unir et travailler ensemble. Alors Élisabeth, qui n'avait que 4 ans, fut fiancée à un duc, Louis IV, le duc de Thuringe. Ce fut un grand déchirement, et pour Élisabeth et pour ses parents, qui virent partir en procession leur fille jusque dans le pays du duc. Ses 2 enfants, Élisabeth avait 4 ans, le duc avait 9 ans, vécurent ainsi 10 années comme 2 grands amis, d'un amour très surnaturel. Ils jouaient ensemble, priaient ensemble, se donnaient de bons conseils. Chaque fois qu'elle passait devant une chapelle, Élisabeth ne manquait pas d'y entrer pour y prier. Et elle emmenait souvent aussi ses amis et ses compagnes au cimetière. Un jour, elle leur tint ce discours. Souvenez-vous, mes amis, que nous serons un jour plus rien du tout que de la poussière. Ces gens qui sont enterrés là, ils ont été comme nous, et maintenant ils sont morts, comme nous le serons. C'est pourquoi il faut aimer Dieu. Mettons-nous à genoux et dites avec moi, Seigneur Jésus, par votre mort cruelle et par l'intercession de votre chère mère Marie, délivrez ces pauvres âmes du purgatoire de leurs souffrances. Seigneur, par vos cinq plaies sacrées, faites que nous soyons sauvés. Sa charité de même envers les autres âmes qui souffraient, les malades, les pauvres, était sans limite. Elle donnait tout ce qu'elle avait. Elle allait sans cesse à la cuisine pour chercher, tout en demandant la permission, des choses à manger ou des restes pour pouvoir les apporter avec une grande joie aux pauvres. Noblesse oblige, Élisabeth avait une tutrice. Elle s'appelait la duchesse Sophie. Et elle était très sévère et parfois même dure avec Élisabeth. Un jour, c'était la fête de l'Assomption, la Sainte Vierge. Cette duchesse emmena avec elle sa propre fille Agnès, accompagnée d'Élisabeth. Elle leur dit, « Descendons à l'église, à la ville. Nous allons prier Notre-Dame. Mettez vos plus beaux habits et vos couronnes de reine. » Les deux jeunes princesses obéirent, et elles descendirent à l'église, et Élisabeth se prosterna le front contre terre devant le crucifix. À la vue du Sauveur mourant sur la croix, elle ne pouvait que déposer sa couronne d'or devant celui qui est couronné d'épines. « Qu'est-ce que vous faites ?» dit sévèrement la duchesse. « Qu'est-ce qui vous prend ? Une reine, mademoiselle, ne se met pas ainsi à plaindre par terre comme une pauvresse, comme quelqu'un qui n'aurait pas d'éducation. Levez-vous. » Élisabeth obéit et dit avec calme et humilité, « Ma chère dame, ne m'en voulez pas. Voyez devant nos yeux notre Dieu et notre roi, ce doux et miséricordieux Jésus. Il est couronné d'épines piquantes. Et moi, qui ne suis qu'une pauvre petite créature de rien du tout, comment pourrais-je rester debout devant lui, couronné d'or et de pierres précieuses? Ma couronne est une moquerie devant celle de Jésus. » Et en disant cela, Élisabeth pleurait amèrement, car l'amour de Jésus crucifié avait rempli son cœur. Le jaloux, le démon, essaie aussi d'insinuer cette jalousie envers les garçons qui entouraient le duc. Il voulait le dissuader de marier cette pauvresse, cette fille du peuple, mais Louis ne tint aucun compte de ses remarques. Il voyait la vertu d'Élisabeth et c'était pour cela qu'il voulait l'épouser, pour l'aider à aller au ciel plus facilement. C'est le but premier du mariage, peupler le ciel d'élus, d'abord les époux et ensuite les enfants. Enfin, le mariage arriva. Élisabeth avait 13 ans, ce qui était assez fréquent pour l'époque. Louis était un roi, un duc plein de vertus. C'était un chef chrétien. Il travaillait à propager la justice, punissait ceux qui désobéissaient à la loi, les blasphémateurs, les voleurs, les ivrognes, ceux qui ne pratiquaient pas le dimanche, car les plus grands délits, les plus grandes fautes, sont les fautes contre les commandements de Dieu. Les commandements de l'État sont moins graves. Pourquoi punir les seconds, ceux de l'État, si on ne punit pas les délits contre Dieu, qui sont plus graves? Ce serait ridicule. La devise du duc tenait en trois mots, piété, pureté, justice. Élisabeth était une duchesse tout à fait vertueuse et chrétienne, soumise, elle obéissait en tout. Elle passait tout son temps libre à faire des œuvres de piété et de charité et se mortifiait beaucoup, portant un cilice autour des reins, se mortifiant pour sauver les pécheurs. Elle n'oubliait pas, dans son bonheur de reine, que tout homme est sur la terre pour souffrir, expier ses péchés et ceux des autres, mériter le ciel pour lui-même et sauver le plus d'âmes possible. Elle se faisait même donner la discipline jusqu'au sang, et après cela, elle se montrait avec un grand sourire à ceux qui ne connaissaient pas ses pénitences. Dieu, par un miracle, montra qu'il acquiesçait à toutes ses pénitences, à toutes ses charités, et qu'il en était très content. Élisabeth reçut la grâce de pouvoir guérir les lépreux, rien qu'en lavant leurs pieds, en pansant leurs plaies ou en les embrassant. Vous connaissez aussi le miracle des roses. Élisabeth portait du pain dans son tablier refermé devant elle, et le duc lui demanda « Qu'est-ce que vous portez là, ma reine ?» Elle ouvrit le tablier, et on ne vit que des roses, alors qu'on était en plein hiver. Un autre épisode, moins connu mais plus beau encore, fut l'épisode du pauvre lépreux. Un jour, n'ayant plus de place dans l'hôpital, dont elle se chargeait, elle ramassa un lépreux, le traîna comme elle put jusque chez elle, le lava, soigna ses plaies, le coucha dans son propre lit. Le duc, ayant appris tout ça, ayant peur qu'un lépreux contamine tout son château, arriva à toute vitesse en criant et voulant jeter ce lépreux à la porte, sans rien demander à personne, il entre dans cette chambre et, à la place du lépreux, il voit couché sur ce lit Jésus-Christ, les bras étendus comme sur la croix, qui le regardait en souriant. Saint Jean de Dieu eut la même grâce, Saint Martin presque la même. Tout ce que l'on fait aux autres, surtout ceux qui souffrent, on le fait à Jésus lui-même. Après 7 ans de bonheur dans ce mariage, après 4 enfants, le dernier n'ayant que 2 mois, le duc résolut de sacrifier sa vie pour partir à la croisade pour rendre service à l'Église qui était très inquiète de la venue des Sarrasins. Élisabeth, pressentant ce qui allait arriver, fit le sacrifice de la vie de son mari, offrit à Dieu à l'avance les douleurs d'être veuve, et en effet, quelques semaines plus tard, on apprenait que le duc était mort à la bataille. Son chagrin fut immense, mais digne, elle acceptait cette épreuve et l'offrait à Dieu. Moins digne fut le comportement des 2 frères du duc, qui chassèrent Élisabeth et ses 4 enfants du château pour pouvoir tout commander et empocher tout l'argent de l'héritage. Élisabeth partit, avec son bébé de 2 mois dans les bras, ses 3 autres enfants qui le suivaient en lui tenant la robe. Et quand elle arriva dans le village au bas du château, ô ingratitude, tous ces gens de cette ville qu'elle avait tant aidés, tous ces malades qu'elle avait soignés et même guéris miraculeusement, personne ne l'accueillit. On avait trop peur des 2 nouveaux ducs et personne ne voulut lui rendre service. Une femme même la jeta dans la rivière en lui disant « C'est bien fait, t'avais pas qu'à faire la maline avec ta couronne de reine. » Élisabeth se releva, lui souria et remercia Dieu de la punir pour ses péchés. Quelle humilité! Qu'est-ce que nous ne devrions pas expier pour nos péchés à nous? Nous qui sommes des vrais pécheurs. Heureusement, quelque temps plus tard, une tante qui était religieuse, l'abbesse Mathilde, l'accueillit dans son couvent. Plus tard, enfin, Élisabeth rentra dans le tiers ordre des franciscains et confia ses enfants à une autre dame. Elle fit le sacrifice de ne plus jamais le revoir. Deux de ses filles devinrent religieuses et les deux autres se marièrent. Quant à elle, elle passa les 4 dernières années de sa vie comme une religieuse à servir les malades. Et voilà qu'un jour, elle avait 24 ans, dans son lit, elle chantait toute seule une sorte de mélodie mi-chant, mi-chant d'oiseau. Le matin, la religieuse qui avait la chambre à côté lui dit « Ma sœur, mais qu'est-ce que vous avez chanté cette nuit ? Vous m'avez entendu ? Mais bien sûr ! Ah, alors je vais vous dire ce qui s'est passé. Un tout bel oiseau s'est posé sur mon lit. Et non seulement il a chanté, mais il m'a dit que j'allais mourir dans 3 jours. Je pense que c'est mon ange gardien qui m'avertit. » Et en effet, 3 jours plus tard, elle attrapa une forte fièvre et elle mourut très rapidement. Ses dernières paroles furent celles-ci. « Oh Marie, venez à mon secours. Le moment de mon départ approche. Dieu appelle ses amis au banquet éternel. Jésus vient me chercher. Silence, silence, créature. » C'était le 19 novembre 1231. Un parfum suave se dégageait de son corps. Il y eut beaucoup de grâce accordée à son tombeau et le miracle, jusqu'au temps de la réforme protestante, où on profana son tombeau et on éparpilla partout dans la nature ses reliques. Très peu furent retrouvées. Elle avait vécu pauvrement, elle était morte misérable, pauvre, et ses reliques avaient subi le même sort. Sainte Élisabeth de Hongrie, qui avait toujours aimé ce que le bon Dieu a demandé de vous, qui n'avait pas eu d'attachement aux richesses, qui ne vous êtes pas révolté dans la pauvreté et la persécution, qui avez passé votre vie à soulager les misères des autres, faites-nous cette grâce de nous oublier pour faire du bien aux autres, sachant que ce bien on le fait à Jésus lui-même. Ainsi soit-il.